On vous en avait parlé sur Radio Pont. Nous y sommes allés. Nous avons pris quelques enregistrements. Les voici.
Chers auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir de me trouver avec Corentin, qui fait partie de l'association Les Compagnons d'Azur. Donc Corentin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Pont déjà.
Merci.
C'est la première année que...
Non, c'est pas la première année qu'on vient là. Notre association est présente tous les ans depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises. Et l'an dernier, je n'étais pas là personnellement, mais oui, non, on connaît le lieu. Voilà. Il y a pas mal de gens qui sont du cru, donc voilà, on connaît.
Est-ce que tu peux nous parler de ton association ?
Bien sûr, oui. Alors, Les Compagnons d'Azur, c'est une association, le 1901, qui a été créée en 2012, dont le siège social est actuellement situé à Périgueux. Actuellement, on est fort d'une dizaine de membres qui, eux, viennent d'un peu partout. Donc, on a des membres qui sont de Périgueux, d'autres de Limoges, de Saumur, de Poitiers, de Bergerac. Voilà, donc on couvre un petit peu, on va dire, une certaine zone géographique dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et nos activités, plutôt, se résument à finalement l'une des maximes de notre association, c'est le Moyen-Âge s'apprend en le vivant. Donc, en fait, nos activités vont vraiment s'articuler avec une pédagogie destiné pour le public. C'est-à-dire que le public peut venir nous visiter sur les stands, voir les différentes activités qu'on propose et tester des reproductions de matériel médiéval, donc du matériel militaire. Vous pouvez voir comment se fabrique une côte de maille, comment pèse une côte de maille pour se faire une idée. Est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est pas lourd? Parce que quand on la porte à bout de bras, c'est vrai qu'on a l'impression que ça pèse un âne mort. Une fois portée sur soi, le ressenti n'est pas le même, parce que le poids s'équilibre sur les épaules. Donc donc on cherche un petit peu à casser des idées reçues et à rendre un petit peu rétablir la vérité sur certains points qui sont parfois méconnus ou parfois mal interprétés, toujours en s'appuyant autant que faire se peut sur des sources historiques, sur des travaux d'universitaires, des travaux d'historiens, et puis un petit peu aussi sur nos retours d'expérience personnelle, puisque la plupart d'entre nous ont déjà fait du combat, ont déjà revêtu des armures, et on a pu constater qu'effectivement, un chevalier, par exemple, une confusion qui est faite souvent, on imagine que quand un chevalier il tombe par terre, il ne peut pas se relever. Il fait la tortue et puis il n'a pas été utile à grand chose. Alors qu'en fait non, on a fait l'expérience en portant une armure, en se mettant par terre. Il faut savoir que quand on est en armure, on peut se relever, c'est déjà la première chose. On peut courir, on peut nager, pas sur très longtemps, on se fatigue assez vite, mais si l'armure est bien ajustée, on peut nager, on peut ramper au sol, on peut faire même des saltos avant, des saltos arrière. Pour les plus acrobates d'entre nous, moi j'y arrive pas, mais c'est tout à fait possible physiquement.
Justement, Corentin, tu me dis on peut nager.
Oui.
J'ai du mal à imaginer que quelqu'un en armure... Combien pèse une armure?
Alors,
en moyenne,
ça dépend du type d'armure, mais bon, pour imaginer quelqu'un vraiment enfermé là-dedans, comme dans une boîte de conserve, faut compter au moins 30 bons kilos.
Voilà. Donc 30 kilos dans l'eau, logiquement, on coule.
Alors, j'ai dit nager pas très très longtemps. Voilà. Ouais. Le fait est qu'on tombe dans l'eau, on peut... Si on bat des pieds, on bat des mains, techniquement, on va rester à la surface. Une personne qu'elle fasse 100 kg, 50 kg ou 150 kg, elle va pas couler tant qu'elle bat des mains. Voilà.
D'accord.
Donc là, c'est un petit peu pareil. Une armure en contact à l'eau, enfin le métal en contact avec de l'eau, ne va pas rouiller immédiatement. On voit souvent dans les films le chevalier qui tombe dans l'eau et puis qui se mobilise 30 mètres après parce qu'il est complètement... l'armure a rouillé et ne bouge plus. Non, pas du tout. Pour avoir encore une fois vu comment se comportaient nos armes quand elles sont laissées à l'extérieur pendant la nuit et qu'on les récupère le lendemain, au bout d'un moment, des couches de rouille superficielle apparaissent.
Ouais, un peu d'oxydation.
Mais voilà, exactement. Ouais. Mais ça n'empêche pas les différentes articulations dans les armures de bouger.
D'accord. Pour ce qui est la partie équestre, je me suis toujours demandé, un chevalier, donc tu me dis une moyenne de 30 kg pour une armure de combat, ça devait être un peu plus lourd ou...
Encore une fois, ça dépend des époques, puisque à certains moments, on va porter une côte de maille sous l'armure pour compenser quelques failles qu'elle a encore, notamment toujours au niveau des bras. Il y a toujours des petits trous qui sont toujours exploitables. Donc on va essayer de porter une côte de maille pour contrebalancer ça jusqu'à ce qu'on abandonne définitivement la côte de maille pour mettre en place, par exemple, aux épaules, les rouelles, donc les petits disques de métal qui ressemblent à des petites assiettes en fait, qui sont là pour protéger cette faille en se passant de la côte de maille. Mine de rien, quand on enlève la côte de maille, donc le haubert, techniquement c'est son vrai nom, quand on enlève ça, on gagne au moins 10 kilos.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est toujours bon à prendre, 10 kilos.
Ouais,
voilà.
Oui.
Donc, après, parler d'armure et de chevaux, techniquement le cheval il est tout à fait capable de porter quelqu'un en armure. C'est pas un souci. Et quand on est en armure, on peut très bien monter à cheval.
Mon interrogation, c'est pour monter sur ce cheval
Si on parle d'une armure de combat tout à fait sur mesure et bien ajustée, on peut tout à fait monter à cheval. En revanche, on imagine, on a toujours la petite image de le chevalier qui est porté avec un treuil pour être posé sur son cheval parce qu'il est complètement immobile là-dedans. Oui, c'était valable pour les tournois, mais c'est tout.
Ah, d'accord. Donc un chevalier dans une bataille qui tombe de son cheval,
il peut se relever
et remonter.
Si le cheval est en mesure de repartir, oui. Généralement, une charge de cavalerie, quand elle est stoppée, le cheval, il va pas juste. Enfin, on la stoppe avec des lances, des épieux. Voilà, donc le cheval, il va être au mieux blessé, au pire mort. Donc si le chevalier n'est pas sous son cheval, il peut se relever, prendre la première arme qui lui vient sous la main, parce que le chevalier part pas juste avec une épée, il a d'autres armes avec lui dans son équipement, il prend la première arme qui lui vient sous la main puis il continue à se battre.
Qu'est-ce que vous pouvez nous montrer aujourd'hui?
Alors,
les activités?
Alors aujourd'hui on a donc le stand du aubergier qui est le nom donné à celui qui fabrique le aubert, donc la côte de maille. Donc sur ce stand vous pourrez voir comment est-ce qu'on obtient des anneaux de métal déjà, donc on part d'un fil, mais comment on obtient ce fil, parce que bon, nous on l'achète maintenant dans les magasins de bricolage moderne, c'est extrêmement pratique, mais voilà, ce fil il faut l'obtenir en premier lieu. Ensuite comment transformer ce fil en anneaux et comment assembler ces anneaux et ensuite comment assembler ces assemblages d'anneaux pour faire un vêtement de maille.
C'est,
voilà, donc tout ça vous est montré sur le stand, et puis pour les plus téméraires d'entre vous, vous pouvez passer une côte de maille sur les épaules pour voir qu'est-ce que ça fait. Et on montre aussi le haubert, qu'est-ce qu'il apporte comme type de protection. Parce que des fois, on nous pose souvent la question, voilà, mais est-ce que le haubert protège contre les flèches, par exemple, contre un tir de flèche? En fait, pas du tout. On a fait l'expérience pour le coup, on a tendu un haubert sur une planche avec un trou derrière, en fait, on a tiré à l'arc dessus, il s'avère que la flèche est passée dedans comme dans du beurre. Voilà, donc elle n'a pas arrêté, parce qu'une flèche, c'est ce qu'on appelait, c'est un type d'attaque perforant, donc la force est concentrée en un seul petit point, et la force est suffisamment grande pour passer au travers des anneaux en les ouvrant. Un coup d'épée, par exemple, va être très bien, un haubert va très bien protéger contre un coup d'épée, puisque la force donnée lors du coup, elle est dispersée entre tous les anneaux que l'épée va toucher. D'accord. Du coup, les anneaux vont tenir en place. Il faut savoir d'ailleurs que même maintenant, de nos jours, on a encore des exemples de côtes de maille, ou du moins d'héritiers de la côte de maille, chez nos amis les bouchers. Oui. Parce qu'un boucher qui utilise un hachoir qui sont tellement effilés que ça fait froid dans le dos quand il les sort, mais pour pas se couper si jamais il loupe, il porte des gants qui sont maillés en métal pour pas se blesser, quoi, en fait. D'accord. Donc une côte de maille protège très bien contre le tranchant, très mal contre le perforant, et aussi très mal contre les coups contondants. Donc les coups contondants qui sont des coups donnés avec des masses d'armes, des gourdins, des bouts de bois, des marteaux, voilà, tout ce qui va vraiment délivrer un choc à l'impact. Pour se prémunir de ce type d'attaque, sous la côte de maille, on porte ce qu'on appelle un gambison. Une côte de maille, on la porte rarement sans rien dessous. Donc ce vêtement gambison, c'est ni plus ni moins qu'une veste rembourrée matelassé qui va absorber une partie du choc quand on le reçoit. En fait. Voilà. Donc, vous pouvez voir ça sur le stand. Donc, passer un gambison, une côte de maille, prendre 15 kilos déjà d'un seul coup, ça fait toujours un petit quelque chose. Mais voilà, généralement, on va demander aux gens qu'est-ce que vous ressentez. La réponse qu'on nous donne, c'est ça paraît moins lourd. Voilà, donc c'est la réponse qu'on attend parce que c'est la vérité. Ça paraît moins lourd parce que le poids est bien réparti sur les épaules. La personne tout à fait marché, on les fait sautiller un petit peu. Voilà. Donc, sur ce stand à côté, vous pourrez aussi trouver différentes reproductions de casques qui vont du plus ancien proto-exemple de casque, donc une coupole de métal sur la tête, à des exemples plus avancés sur la fin du Moyen-Âge, donc par exemple les bassinets, les casques avec le gros museau pointu qu'on voit souvent dans les films. Donc vous pouvez voir comment les casques ont évolué au cours du temps. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de casque? Parce que certains vont bien protéger contre les attaques portées selon un certain axe, mais sur d'autres angles d'attaque vont bien moins protéger. Vous pourrez trouver aussi des exemples de pièces d'armure, donc de protection de jambes, de protection de bras, pour montrer comment celles-ci se sont adaptées à leur époque, sur quelle zone elles protègent et quelles sont encore leurs faiblesses. Vous pourrez voir évidemment des membres de la compagnie s'occuper, on va dire, de la sécurité, de l'animation, puisque nous avons des gardes qui sont dispersés un petit peu partout sur le site.
Voilà. Vraiment en sécurité aujourd'hui.
J'en suis très heureux. En plus, je suis responsable aujourd'hui, donc ça me retombera dessus si jamais quelque chose se passe mal. Donc, on a des gardes qui vont déambuler sur le site en tenue d'époque variée, puisque dans la compagnie, on n'a pas spécialement d'époque de référence. Pas mal de compagnies de reconstitution médiévale vont vraiment s'arrêter à une époque en disant voilà, on est plutôt concentré fin du 14e, début du 15e siècle par exemple. Nous non, on essaie d'opérer dans un continuum, parce qu'en fait il n'y a jamais eu, ça serait une erreur de dire qu'il n'y a jamais eu de rupture, mais elles ne se sont pas faites toutes seules. On va dire que l'évolution n'est pas discontinue, ne serait-ce que dans la nature de l'équipement ou même dans l'habillement. En fait, on peut toujours retrouver les inspirations dans le passé pour expliquer comment ce vêtement ou comment cette arme a évolué. Donc on est là-dessus, donc nos gardes sont équipés selon des époques, l'époque de leur choix, en fait, ils sont capables de dater leur équipement, voilà, que ça soit un tout cohérent néanmoins. Et donc vous avez aussi d'autres choses, on a un stand de jeux de société antiques et médiévaux, donc des exemples de jeux qui, en fait, quand on les étudie, on se rend compte que nos jeux qu'on peut avoir à cette époque contemporaine, finalement, sont inspirés de jeux qui ont existé il y a très très longtemps. Ouais. Donc on a un proto-exemple de jeu d'échecs, on a un jeu qui rappelle un petit peu le jeu de dames, mais qui autorise des mouvements dans plusieurs directions, voilà, donc des noms, des jeux qui ont des noms qu'on connaît pas maintenant, donc je pense à Neflatafle, le Latroncule, le jeu de Merelle. Voilà, donc c'est des noms qui ne nous parlent pas, mais en fait, quand on y joue, parce que les jeux sont disponibles au public, bien sûr, les règles sont inscrites à côté et chacun peut participer, ben on se rend compte qu'il y a des mécaniques qu'on retrouve dans nos jeux, contemporains. Ouais. Donc on a des jeux qui datent de l'Antiquité, qui sont difficilement datables, et on a des jeux qui ont été retrouvés, pareil, au milieu du Moyen-Âge, donc notamment un jeu du XIIIe siècle en Espagne. On a des exemples qui se promènent sur à peu près, oserais-je le dire, 1000 ans, 1500 ans. Et ce qu'on propose d'autre aujourd'hui, vous avez, en l'occurrence, pas maintenant, parce que je suis en train de vous parler au micro, mais ouais, c'est moi aussi qui m'occupe de montrer comment on frappait de la monnaie, comment on battait de la monnaie à l'époque médiévale. Donc, en retraçant un petit peu l'histoire de la monnaie dans ce qu'on va appeler l'Europe géographique, la monnaie retrouverait ses origines plutôt dans l'ouest de la Turquie, une région qu'on appelait la Lydie, au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui, maintenant porte un autre nom, mais il m'échappe là pour le coup, mais voilà, c'était dans l'ouest de la Turquie, pas très très loin de la mer. Et donc voilà, comment, à partir des proto-exemples de monnaie qui sont apparus à cette époque, on en est arivé au système financier tel qu'il est, en fait. Voilà, 2 euros valent 2 euros parce que c'est écrit sur l'une des faces de la pièce. À l'époque, une pièce, elle ne vaut pas une valeur qui est écrite dessus. Elle n'a pas de valeur faciale, qu'on appelle, elle a comme valeur ce dont elle est constituée. Une pièce de 10 grammes d'or, elle est au pif, elle vaut 10 grammes d'or. Donc on peut retrouver l'autorité émettrice et accessoirement le propriétaire de cette pièce en regardant les détails qui sont...
Les poinçons
Les poinçons ou même les armes de la, de la famille qui les a fait frapper, la famille royale en général, ou l'autorité émettrice, parce que certes le roi a le pouvoir de faire frapper de la monnaie, mais c'est pas lui qui va le faire, il va généralement déléguer ce pouvoir. Voilà. Tout comme l'institution qui frappe la monnaie en France, c'est la Banque de France, mais c'est pas la Banque de France en tant que telle, il y a des sous-traitants, il y a des prestataires. Voilà. Donc notamment, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a en Charente. Donc dans le département d'à côté, il me semble qu'il y en a une société qui frappe pour la Banque de France.
À l'époque, la monnaie était frappée donc par le seigneur de Pont. Est-ce qu'elle était valable, par exemple, dans le nord de la France ou
Alors, oui, elle était valable, mais vous deviez passer par un agent de change. Ce dont maintenant on ne se rend pas compte, puisqu'on est dans un système de... Notre système de mesure est harmonisé, dans ce qu'on appelle le système international d'unité. Un kilo pèse un kilo où qu'on se trouve, un mètre mesure un mètre où qu'on se trouve. À l'époque, les unités de mesure de masse étaient différentes. La livre parisienne pesait pas la même chose qu'une livre florentine, par exemple. Du coup, pour avoir... on sait qu'à partir d'une livre de métal dans cette région, on arrivait à sortir tant de pièces. Mais donc les pièces avaient une masse identique entre elles, mais une certaine masse qui était différente de la masse d'une pièce d'une autre région, par exemple. Donc on devait passer par l'agent de change qui devait rééquilibrer un petit peu ça pour que l'argent soit valable. Mais fondamentalement, c'est du métal précieux, ça a de la valeur partout. Si tant est qu'on sait quel est l'équivalent en pièces d'ici par rapport en pièces de là-bas, on peut s'entendre commercialement.
Voilà. Je suppose que c'est une passion, vous n'en vivez pas au jour le jour, ce n'est pas votre métier.
Pas du tout. Non, c'est une passion commune. On s'est rencontrés, pour certains d'entre nous, on s'est rencontrés il y a plus de 10 ans maintenant, quand on était à l'université. Et c'est une passion dans laquelle je me suis fait entraîner, je suis très très vite tombé dedans, ça m'a beaucoup plu.
D'accord.
Donc j'ai poursuivi un petit peu là-dedans. Et en fait, mon plaisir, c'est de transmettre des connaissances. À la base, je suis un scientifique, je suis un chercheur, et du coup, si j'ai fait ce métier, c'est pour le plaisir déjà de travailler dans la science, mais c'est aussi pour transmettre de la connaissance. Parce que si on fait de la connaissance dans notre coin et qu'elle ne profite à personne, finalement c'est une connaissance inutile.
Tout à fait.
Voilà. Moi je pars du principe que toute connaissance est bonne à transmettre, d'autant qu'une connaissance n'est pas une marchandise. Donc on fait ça avec grand plaisir. Donc non, ce n'est pas notre métier, pas du tout. On pourrait trouver tous les corps de métier parmi nos membres, mais non, on n'en vit pas.
Donc après Pont, vous avez d'autres dates où on peut vous retrouver cet été ?
Cet été, oui. La semaine prochaine, le week-end prochain, nous serons à Montpazier, en Dordogne. Voilà. Aussi, une autre date au mois de septembre. Mais pareil, je n'ai pas l'agenda sous les yeux, donc je ne me rappelle pas pour le coup.
Est-ce que vous avez un site où on peut aller
On a une page Facebook, une page publique, donc les Compagnons d'Azur, qui porte très bien son nom.
Oui.
Et toutes les informations de contact, en fait, sont dessus. On n'a pas de site internet en tant que tel, on communique à l'extérieur que par le biais de notre page Facebook.
D'accord, très bien.
J'aime beaucoup la fête médiévale de Pont, parce que ça a toujours été une ambiance relativement, une ambiance relativement détendue, familiale, donc c'est pour être du coin, les gens qui viennent ici sont fidèles à l'image que j'ai d'eux, donc c'est très bien, on passe toujours de très très bons moments. Et si d'aventure vous avez envie de venir l'an prochain, je vous y encourage vivement. On y sera très certainement, puis surtout avec grand plaisir, toujours le même. Et si jamais vous avez des questions, des questions sur le médiéval, c'est vrai qu'Internet peut être une bonne source d'information, mais le fait est qu'on peut trouver tout et son contraire sur Internet. Nous-mêmes déjà, on s'est rendu compte que des fois, on racontait de grosses salades. Pas volontairement, mais on s'est rendu compte en fait qu'on avait une sorte de parti pris où on avait une idée. Et après coup, on s'est dit, bon, c'est vrai que je suis pas très très sûr de cette info, je vais quand même aller vérifier. Donc on va regarder un peu à droite à gauche, on demande à des gens. Je... Ah non, en fait, pas du tout. C'était, je raconte des sottises aux gens depuis un an et je m'en veux un peu. Donc voilà, donc, on est en constante amélioration aussi. En ce qui nous concerne, voilà, on présente chaque année une version améliorée de l'année précédente dans nos ateliers, autant que faire se peut. Voilà, donc bien, si jamais vous avez des questions, Internet est un bon endroit où trouver des réponses, mais aussi vous déplacer sur une fête médiévale et parler avec des gens qui ont le plaisir de la reconstitution et de la transmission de connaissances, ça peut être aussi une bonne source d'information.
Il est passionné, on entend bien que la passion passe bien à travers...
C'est vrai ?
Ouais, ouais, tout à fait.
C'est parfait.
Ouais.
Moi, je m'en rends pas compte parce que bon...
Si.
J'en suis ravi. Et voilà, donc, il ne faut jamais hésiter à demander à des gens. Ils pourront savoir, ils pourront pas savoir. Moi, quand je sais pas, j'ai pas envie de le dire. Voilà, je ne sais pas aujourd'hui. Voilà, donc pareil, pour la monnaie, en ce qui me concerne aujourd'hui, il y a des trucs sur lesquels je n'ai pas encore la réponse parce que bah, c'est un travail assez compliqué, hein, se documenter, surtout quand on le fait
expérimenter
et quand on le fait à la manière scientifique. Donc vérifier ses sources et puis surtout que tout ce qu'on dit ce soit réfutable, c'est un travail très très long et très fatigant. Donc bah, on n'a pas toujours le temps de le faire. Voilà. Donc on fait ce qu'on peut. Voilà. Mais ne pas hésiter à demander à des gens, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Il ne faut pas avoir peur de s'avancer et de dire bah, j'aimerais bien tester pour voir ce que ça donne. Voilà.
Corentin, merci beaucoup d'être venu partager avec nous et nos auditeurs votre passion.
Ben, merci à toi pour l'invitation.
Et puis, je vais te laisser rejoindre tes compagnons.
Ouais.
J'irai voir tout à l'heure le travail que tu fais sur la monnaie.
D'accord.
Ça m'intéresse beaucoup.
Ok, ben, il faut que je m'y mette parce que j'ai pris du retard sur...
Et j'invite encore une fois tous nos auditeurs à aller sur ta page Facebook.
Ouais.
Et à prendre contact avec vous si la moindre question les effleure.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Alors... Bon, étant donné qu'en ce moment la saison est assez dense, on ne peut pas spécialement être sur le qui-vive pour les réponses, mais voilà, si jamais vous avez une question ou une demande, voilà, même nous recruter pour une prestation, c'est par là que ça se passe. Donc toutes les informations seront dessus, il n'y a pas de problème. Le bureau vous répondra.
Très bien. Eh bien, voilà. Merci Corentin.
Merci à toi.
On se verra certainement l'année prochaine.
Oui, bah, c'est super.
Voilà.
Bonne fin de journée.
Merci beaucoup.
À tout à l'heure.